Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Stéphane de Saillant et Pierre des Locomotives de la Paix, sans doute un DIWA, enfin je sais.
Oui, de Minglon.
De Minglon, qui sont venus parler d'une marche qui va accompagner ou qui va complémenter la COP21 pour sensibiliser les citoyens sur la COP21. La COP21, j'ose même pas le rappeler, c'est une conférence qui va rassembler 195 pays sur le climat. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler de cette marche et de ses objectifs, pourrait-on avoir un débat général sur la COP21? Pourquoi d'ailleurs des citoyens ont voulu faire une marche pour complémenter ou je ne sais quoi à propos de cette COP21? Et qu'est-ce que vous lui reprochez ou qu'est-ce que vous pensez de la COP21?
La COP21, on pourrait dire beaucoup de choses. En tout cas, c'est un rassemblement de chefs d'État et surtout de lobbyistes qui se réunissent régulièrement pour discuter un petit peu et négocier les rejets de gaz à effet de serre. Donc cette COP21, bon, on l'a bien vu avec les précédentes qui ont accouché de déjà avec des résultats qui étaient avec très peu de contraintes, et en plus on se rend compte avec le temps que même ces faibles contraintes n'ont pas été au bout. Donc c'est sûr que on voit ça je vois ça d'un œil un petit peu lointain et pessimiste. C'est plus pour moi une manière pour les chefs d'État et de s'afficher et de faire semblant de faire des choses pour le climat et pour tout ce qui est en train de tourner mal. Donc c'est plus un outil utilisé par le système en place pour faire passer des mesures et qui vont à l'encontre du bien commun.
Du greenwashing. Qu'est-ce que t'en penses,
Pierre ? Ce qu'il a dit, je le rejoins là, à part que moi je vois pas ça de manière si pessimiste. Disons qu'on est dans une logique, c'est une logique nationaliste, où en effet c'est des chefs d'État, ou alors c'est les grands groupes de lobbying. Et on a atteint le bout de la validité de notre organisation là. Et les grands absents, justement, ce sont les citoyens. Et c'est pour ça que moi, je ne m'intéressais pas spécialement à la COP21. C'est quand j'ai su qu'il y avait des marcheurs qui allaient faire Forcalquier, Paris, ou alors le barrage de Sivens jusqu'à Paris, que j'ai dit « Ah, c'est super, il y a des gens au moins qui se motivent. » Et là, ça poussera les chefs d'État, tous les gens qui sont à la COP21, officiellement, disons, à aller plus loin. Parce que si les citoyens continuent à se laisser faire, on n'a que ce qu'on mérite, entre parenthèses.
Bon, j'ai bien entendu, et d'ailleurs, vos deux argumentations se rejoignent sur cette sensation qu'on arrive au bout du système et qu'on n'attend pas grand-chose de négociations à un niveau qui nous dépasse.
Non, mais c'est super que ça existe. On peut dire ça quand même.
La COP21 ?
Ouais.
En tout cas, moi, je vois ça comme effectivement, positivement, dans le sens où ça va nous permettre de nous rassembler, ça va nous permettre d'échanger, ça va nous permettre une certaine convergence des luttes qui vont se retrouver là-bas, où on va pouvoir envisager la suite, on va pouvoir se montrer, on va pouvoir montrer qu'il y a un autre possible, qu'il y a un autre, d'autres possibles qui émergent. Après, je n'ai aucune confiance dans ce qui va se décider. Mais en tout cas, pour moi, c'est un moyen de se montrer en France, dans le monde, parce que je pense qu'on va être beaucoup à être là pour dire stop à ce système qui détruit l'humain. C'est un détail sans l'être. Dans les partenaires de la COP21, il faut quand même savoir qu'il y a quand même des grands destructeurs et productivistes que sont Bolloré, le groupe Bolloré, la BNP, L'Oréal, Carrefour. Enfin, ce sont des gens qui financent cette COP21. Donc, comment peut-on attendre quelque chose de financeurs qui, bien sûr, on le sait, vont être là en sous-main pour orienter un petit peu les décisions des politiques. Donc moi je le vois plus comme une possibilité d'amener sur le devant du débat les luttes qu'on peut avoir en France, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit ces zones où on veut détruire des zones maraîchères, où on veut bétonner, etc. Donc qui sont des luttes emblématiques en France, et c'est un peu un moyen de se faire entendre et de dire stop à tout ça, quoi.
C'est bien ça. Moi, je crois que la crise, c'est pas qu'une crise politique. Pour moi, c'est plus profond même. C'est l'espèce humaine qui est en face, qui prend conscience. Il y a une prise de conscience de ces problèmes-là. Et les gens qui ont les responsabilités, qui normalement devraient avoir les responsabilités de les résoudre, n'en ont pas la capacité. Et en plus, ont l'habitude de réagir par égoïsme quand ils sont dans leur côté entreprise, ou leur logique de profit, disons, ou alors par nationalisme quand ils sont à la tête d'un État ou autre. Et c'est pour ça que c'est important que les citoyens, les êtres humains, il y a de plus en plus de prise de conscience à ce niveau-là, et il y a vraiment des solutions à proposer. Et c'est à nous à proposer des solutions, et des solutions pour qu'il y ait des changements de fond, il y en a plein qui émergent, hein. On peut parler du revenu de base, par exemple, nous, les locomotives La Paix, une des solutions qui ferait faire un bond en qualité, notamment en France, ça serait le désarmement unilatéral exemplaire. Actuellement, presque tous les pays, toutes les nations ont une armée. Mais c'est un délire. Ça, justement, quand on parle de pollution, de COP21, qu'est-ce qu'il y a de plus polluant qu'un avion en réaction, que des hélicoptères ? Là, on ne cherche même pas, qui ne consomment pas beaucoup. Il faut que ça soit blindé, c'est obligatoirement lourd. On est dans le délire. Qui a encore besoin d'armée ? On est encore dans une logique de rapport de force. Il faut sortir de ces trucs-là. L'homme, il doit coopérer. On n'est plus... La Terre, c'est devenu un village, un peu. Si les élus, ceux qui sont à la tête, parce que souvent, c'est des dictateurs, en plus. Alors, s'ils ne sont pas capables de s'entendre, de faire un monde fiable, il faut vraiment que les citoyens proposent des idées. Parce que les gens de la COP21, même qu'ils soient chefs d'entreprise ou chefs d'État, c'est aussi des citoyens de leur pays. Et qui ont à résoudre un phénomène qui dépasse tout le monde, quoi.
Ouais, enfin, qui dépasse, c'est un peu les dédouanés. Enfin, je pense qu'ils auraient la capacité de faire des choses. Le problème, c'est que derrière, c'est que des marionnettes. Enfin, c'est mon point de vue, encore une fois, hein, mais c'est des marionnettes dont les ficelles sont tirées par des gens qui sont plus hauts, que ce soit les banquiers, les économistes, etc., qui, eux, façonnent un petit peu le monde pour le gain, pour le profit, etc. Donc, si à un moment, le politique dit stop et décide, bien sûr, un autre possible et d'autres avenirs, bien sûr qu'il a la capacité. Enfin, moi, je suis contre le fait de dire que les politiques n'ont plus les clés. Si, ils les ont. Ils les ont, sauf qu'il y a quelqu'un qui leur prend la main pour faire un autre usage de ces clés. Pour moi, le vrai enjeu, bon, la COP21, c'est un phénomène, entre guillemets, un épiphénomène, mais pour moi, il faut s'attaquer à notre démocratie et à la manière dont on met en place cette démocratie, dont la manière dont les décisions sont mises en place. Où sont les contre-pouvoirs? Enfin, on aborde plein de domaines, là, mais par exemple, en ce moment, il y a le gros problème de la presse. La presse, c'est un scandale, ce qui est en train de se passer. Le rachat par quelques grands groupes, quelques milliardaires de toute la presse, cette uniformisation de la presse, et donc, du coup, cette info qui ne sort pas, sauf par des médias indépendants et libres comme vous, c'est un énorme souci. Et donc, on est en train de nous confisquer cette démocratie. Et à partir du moment où on n'a plus les clés de cette démocratie, on nous prend notre vote, on donne notre pouvoir démocratique en allant voter, et on laisse certaines personnes agir à notre place. Et bien voilà ce qui se passe. C'est les intérêts de certains qui prennent le dessus sur l'intérêt commun. Et donc, on en arrive à du productivisme et du militarisme, etc., qui amène une conséquence, c'est tout ce qui se passe par rapport au climat et ce dérèglement climatique. Donc, pour moi, pour s'attaquer aux soucis de climatique, etc., il faudrait s'attaquer vraiment à notre représentation démocratique et quelle démocratie on veut, quoi. Quelle place on se donne dans cette démocratie. Assaillant, c'est un exemple de appropriation de la démocratie. Je suis dans le village, donc je le vis un peu au quotidien. C'est un exemple local, mais qui a envie de faire des petits. Mais c'est la base pour moi. C'est la base. C'est vraiment s'attaquer à cette fausse démocratie qu'on nous vend, cette oligarchie qui existe et qui favorise une minorité au détriment de la globalité, quoi. Donc pour moi, la COP21, c'est juste un sparadrap avec certaines petites poudre d'estompettes qui vont être mis ici par là pour bien passer, mais on va pas s'attaquer au fond du fond, quoi. Et pour moi, il y a vraiment une urgence à s'attaquer au fond.
Et là, c'est une opportunité. Moi, tout à fait d'accord avec toi. Hein. Moi, je pousserai aussi, là, parce que la démocratie, il faudrait aussi dire ce qu'on veut mettre dans ce mot-là. Parce que c'est pas que le vote, c'est pas que de faire partie des décisions. Il y a aussi une énorme injustice ou un énorme déni de démocratie, ou même de république carrément, quand on voit qu'il y a des gens qui ont c'est par l'héritage, par exemple, la transmission des inégalités. Tu vois la différence de richesse, la différence d'inégalité des chances qu'il y a entre les citoyens. Qu'est-ce que tu parles de démocratie, là ? On ne peut pas parler de démocratie, en effet. Et c'est la COP21, ça peut être une opportunité pour remettre sur le devant de tous ces problèmes. Si on veut qu'il y ait des solutions de fond et des solutions qui soient citoyennes, où tout le monde, en prenant conscience des défis qui sont donnés par le monde qu'on a créé, hein, que les êtres humains ont créé, c'est là qu'il faut remettre tout carte sur table et ça pourrait facilement se résoudre dans ce cas-là. Mais si on se laisse faire...
Pour reformuler un petit peu votre échange, j'ai l'impression que vous êtes quand même d'accord. Pierre, tu parles que le citoyen se réapproprie le débat, et toi tu parles de représentation inefficace, démocratique. Vous êtes en phase. Je voudrais compléter par une petite phrase taoïste que j'aime bien. Le changement devrait venir d'en bas, en fait. Le changement vient d'en bas, théoriquement. Et c'est vrai que de nos jours, je te rejoins sur cette méfiance concernant ce qui pourrait venir de la COP21, c'est que ça vient encore d'en haut et que on ne sait pas quels sont les fils qui tirent les marionnettes. Ceci dit, n'avez-vous quand même pas un dernier espoir sur la stratégie dite des petits pas, hein? Est-ce que l'urgence de la situation sur la planète, que ce soit au niveau économique, social, écologique, politique, est telle qu'on ne peut plus s'en sortir par des petits pas et que vous souhaiteriez qu'il y ait un véritable saut en avant et donc peut-être des mesures radicales? Ou est-ce que vous pensez que par la négociation, on pourrait encore s'en sortir?
Ben, je ne sais pas. Là, il faudrait regarder les données rationnelles, scientifiques, de l'état du monde. Hein. Mais si on fait des prospectives par rapport aux minerais, par rapport aux ressources qui existent, et quand on voit la croissance, par exemple, de la Chine, de l'Inde, des autres pays qui, évidemment, veulent avoir le même niveau de vie que nous, ce n'est pas jouable. Il faut vraiment, nous qui avons montré cet exemple de développement, de consommation, on sait déjà que la Terre, elle a une capacité pour rester en harmonie qui est dépassée dès maintenant, alors qu'il y a plein de pays en Afrique qui n'ont même pas le nécessaire. Nous, c'est vraiment urgent, c'est pas les petits pas, c'est vraiment urgent d'aller vers les produits bio, vers la bioconstruction, vers tous les trucs qui sont en harmonie, quoi, où on ne détruit pas le...
Oui, enfin, moi je reviens sur ce que tu disais, les petits pas. Alors oui, c'est bien beau, c'est un peu ce que dit Pierre Rabhi, enfin le colibri, etc. Bon, ok, on va tous faire un petit peu à notre niveau ce qu'on peut faire, mais une question de proportion. Enfin, je veux dire, en face, on a quand même des industries. C'est sans commune mesure ce qui est en train de se passer au niveau des rejets de gaz à effet de serre, au niveau de la pollution, au niveau des terrains qui sont confisqués dans toute la France et dans le monde entier. Enfin, je rappelle qu'en France, tous les 7 ans, il y a l'équivalent d'un département, la surface agricole d'un département qui disparaît sous le béton. Et donc, il y a une machine en face qui est là. Alors oui, c'est très bien que chacun, chez soi, on fasse des choses par rapport à notre mode de vie, notre mode de consommation, etc. Mais j'ai quand même tendance à penser que c'est pas en faisant chacun des petites choses de notre côté que ça va pouvoir globalement changer l'évolution et la marche en avant de ce système. Je pense vraiment qu'il y a besoin de radicalité. Tu parlais de radicalité, donc radicalité, ce qui signifie revenir, aller vraiment à la source des choses. Et ça n'a aucun rapport avec la brutalité, hein. Des fois, on entend radicalité. Ah, attention. Enfin bref, on a besoin de radicalité, vraiment aller au fond des choses et vraiment regarder un petit peu bah, d'où ça vient les choses et s'attaquer à ça. Donc à un moment, le rapport de force, et c'est aussi la COP21, ce que beaucoup espèrent, c'est qu'il y a un rapport de force qui se met en place, qui peut prendre la forme des obéissances civiles, d'actions non violentes, mais des choses engagées aussi, qui ne sont pas juste aller marcher dans la rue, manifester, mais aussi à un moment dire bah, on est là et on propose autre chose. Et je prends l'exemple, par exemple, pour la COP21, il y a des actions qui sont en train d'être menées, c'est mené par un collectif, notamment sur Paris avec Attaque, je sais qu'il y a Attaque, il y a les désobéissants, d'aller chercher des chaises, c'est une action symbolique, hein, mais bon, qui quand même demande un engagement, chercher des chaises dans les banques, les prendre et ne les rendre qu'au moment où ces banques vont rendre les milliards qu'ils envoient dans les paradis fiscaux. Donc voilà, il y a ce type d'action qui quand même est marquant, qui fait un peu parler, parce que les médias n'en parlent pas beaucoup, mais quand même. Donc à un moment, je pense que c'est aussi par des actions comme ça, en masse, qu'on va pouvoir à un moment mettre en place un rapport de force. Moi, je crois en ce rapport de force. pour faire changer les choses, parce que sans ça, je veux dire, toutes les avancées sociales et ce qu'on a gagné, ça ne s'est pas fait assis dans son fauteuil ou même juste en allant marcher dans la rue en criant des slogans. Enfin, à un moment, il faut aussi montrer qu'on est là et qu'on est motivé et déterminé.
J'entends bien, mais n'opposerais-tu pas un écofascisme, si je devais être encore plus radical, à un fascisme économique? Je veux dire, s'il y a des éléments qui dysfonctionnent dans notre système, et je suis bien d'accord avec toi que les rapports de force ne sont pas en faveur des citoyens en ce moment et plus en faveur des grands lobbies et capitaines d'industrie et autres. Néanmoins, si on décide, bah voilà, il faut arrêter de bétoniser des surfaces arables, c'est ainsi, toc. Ne penses-tu pas que, c'est pour ça que je parlais de petits pas, les gens seraient un petit peu heurtés ou meurtris par des changements trop radicaux, imposés, même avec les meilleures intentions du monde? Tu as fait tout à l'heure le distinguo entre radicalité et brutalité. Des changements trop rapides et imposés à la population ne pourraient-ils pas faire sombrer celle-ci dans une prostration, une dépression ou un radicalisme de style Mad Max qui serait effectivement contre-productif?
Ah mais complètement, mais c'est pas du tout le discours. Effectivement, par rapport à cette COP21, bon, les gens qui sont engagés, faut aller voir un petit peu comment ça se passe, les assemblées, comment les décisions se prennent, au consensus, comment les gens ont la parole, comment la parole est facilitée, etc. Il n'y a pas question d'imposer des choses. Justement, l'envie, c'est justement qu'on se rassemble, qu'on se réunisse. Je pense qu'on a vraiment besoin de mise en commun, de se rassembler, de faire connaissance, de discuter ensemble. Ça manque vraiment. Et puis, c'est là que les choses se décident, se discutent, etc. Il n'est absolument pas question de décider des choses. Là, je donne encore une fois mon point de vue. Mais encore une fois, la démocratie se vit dans toutes ces luttes, etc. Il faut aller les voir, il faut aller dans ces luttes pour se rendre compte que l'idée, c'est l'horizontalité, pas d'hiérarchie, qu'il n'y ait pas de chef, etc. Enfin, là, je parle peut-être plus, moi, d'un phénomène qui me touche, c'est les ZAD, vous l'avez compris. Enfin, par exemple, la ZAD de Roibon, j'ai passé quelques temps. Voilà, tous ces lieux où on décide collectivement, etc. Et effectivement, ce serait un danger et il peut y avoir aussi des milieux qui laissent penser qu'ils vont lutter contre le système mais qui reproduisent un système en place. Je pense à, par exemple à Soral, à tous ces gens-là, à des gens qui vont effectivement, peut-être dans les idées, on peut les suivre, mais quand on se rend compte de leur fonctionnement, on reproduit. Voilà, c'est toujours la même chose avec un chef qui va décider pour les autres et cette hiérarchie qui se remet en place. Donc il n'est absolument pas question de remettre en place ça, bien sûr.
À 100% d'accord, ça c'est sûr. Il y a aussi, moi ça me fait aussi beaucoup de plaisir de voir des gens, des jeunes notamment, qui veulent vivre de manière simple, en consommant très peu, en essayant d'utiliser des herbes sauvages ou d'essayer de ne pas travailler. Parce que ce qu'on ne se rendait pas compte avant, c'est qu'avant on voyait le côté travail que comme quelque chose qui amenait. Là on se rend compte que le travail ça pollue beaucoup aussi. D'essayer de vivre en n'ayant pas de véhicule ou qu'un vélo. S'il y en a, il y en a qui arrivent à trouver un équilibre, qui sont super heureux comme ça, c'est bien. Mais il faut faire attention aussi au conditionnement que l'on a. Tout ce qui est démocratie horizontale, tout ça, là, c'est parfait, là, parce qu'on est dans la vie, quoi. Mais on est obligé, par exemple, d'avoir un véhicule individuel qui est un moteur à explosion, s'il y a les moteurs électriques qui arrivent. Mais pourquoi ils n'ont pas investi dans les trucs à l'hélium? On pourrait avoir des montgolfières à hélium, des dirigeables, on pourrait avoir des petites aéronefs. Là, il y a des ailes volantes, mais ce n'est pas des trucs de déplacement. Là, il faudrait que les associations investissent plus là-dedans. Il y a aussi sur la traction animale, c'est encore autre chose, mais il y a beaucoup de domaines que les citoyens doivent investir.
Je rejoins Stéphane sur le fait que le vrai déficit actuel, c'est le mode de gouvernance qui est complètement obsolète. Ça marche plus. Voter pour des hommes politiques, leur donner un blanc-seing pendant un certain temps et qu'ils fassent ce qu'ils font, c'est ça qui met en boule les citoyens qui ont l'audace de se sentir encore concernés parce qu'ils sont pas encore totalement dégoûtés par ce qui se passe. Ceci dit, ce qui est reproductible à Saillant, qui est une petite commune de 1000 habitants, est-ce que c'est reproductible dans des pays de plusieurs dizaines de millions de personnes, cette horizontalité? Ça, c'est encore un modèle à réinventer quand même. À mon avis, le problème, il est là. Comment faire en sorte d'impliquer les citoyens et ne pas que ça devienne un gros bordel quand même?
Effectivement, Saillant, je pense que c'est une taille qui est super, 1000 habitants effectivement, mais il faut savoir qu'il y a d'autres expériences qui ont lieu ailleurs et dont Saillant s'est inspiré, qui ont mobilisé bien plus de monde, comme à Porto Alegre au Brésil, comme même en France à Montreuil, où il y a une liste collective, collégiale, qui a failli, qui a perdu à quelques voix au deuxième tour. Enfin, Montreuil, une grosse ville, quoi. Il y a d'autres expériences, donc.
Faillir, c'est pas suffisant, hein.
C'est pas suffisant, mais c'est sur la bonne voie. Enfin, je veux dire, faut voir le positif aussi à un moment, parce que sinon, on sombre vite dans le défaitisme. Mais il y a quand même des expériences un peu plus grandes. Et puis après, le tout, c'est de segmenter, effectivement. Une grosse ville, c'est des quartiers aussi, c'est des arrondissements. Donc, commençons par notre quartier et allons un peu plus loin ensuite, etc. Le problème aussi, c'est qu'on est pris sous, on est étouffé par des chiffres, par une globalité qui nous confond. Voilà, je pense que c'est aussi volontaire et qui fait qu'on se sent un peu trop petit et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux rien faire. Enfin, voilà, c'est pas possible. Et aussi, on peut commencer par son quartier et agir dans son quartier pour ensuite, que ça prenne un peu plus d'ampleur, etc. et qu'on augmente. Après, effectivement, il y a des questions sur, à l'échelle d'un pays, est-ce que ça pourrait se faire? Mais, tant que ça n'a pas été fait, allons-y, quoi. Essayons. Il faut tenter des choses. Enfin, je veux dire, on est quand même là dans un système qui arrive vraiment à bout de souffle et qu'il faut impérativement il faut en changer, bien sûr.
Tu réponds à la question, tu crois pas qu'on puisse le changer, il faut le changer radicalement.
Complètement. Ouais. On met pas des rustines à ce système capitaliste pour moi, il faut vraiment changer de système, passer à autre chose et l'inventer, quoi. C'est tout l'enjeu des temps prochains.
Moi, je serais d'accord aussi, hein, par rapport au niveau révolution, il vaut mieux là aller pas à pas, ou alors que ce soit une révolution non violente. Parce qu'actuellement, il y a une certaine structure qui est en place, c'est pas la peine de la détruire si on n'est pas sûr de mettre quelque chose de mieux. Parce que l'histoire a montré que les pays qui ont fait la révolution, je pense notamment en Russie, mais on peut voir aussi en France, la République... Actuellement, on peut dire qu'on n'est pas en République. La République, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est des symboles qui servent à nous tromper. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de fraternité, il y a très peu d'égalité, et il y a de la liberté. C'est quoi la liberté quand il n'y a pas d'égalité? Donc, il faut qu'il y ait une révolution, mais non violente, disons. Il faut qu'il y ait une révolution aussi à l'intérieur de soi. Et par rapport à la solidarité, que les gens se retrouvent et on pourrait parler de la marge justement et dire qu'actuellement ils ne sont pas assez nombreux et des gens qui ont du temps, ça serait bien qu'ils viennent les rejoindre. Et entre parenthèses, des gens qui ne sont pas motivés par les études qu'ils font ou qui sont au chômage bien sûr, ou qui sont en vacances ou des retraités qui n'ont rien à faire. D'aller les rejoindre, ça les boosterait parce qu'il y a des trucs qui vont se passer.
Bon, je vois que vous êtes motivé pour faire bouger les choses. C'est un trait commun qu'on retrouverait sans doute chez les participants de cette marche. Ils veulent être impliqués dans les décisions de ce monde. Et ce serait effectivement un signe tellement essentiel que les citoyens soient d'une façon ou d'une autre impliqués dans la vie publique. Hein ? D'ailleurs, si on devait rappeler la définition de la res publica, c'est la chose publique. Et d'ailleurs, cette marche a été lancée par qui ?
Par qui elle a été lancée? C'est un appel multiple. Je pense que ça vient beaucoup des lieux de lutte. C'est venu un peu, je pense, de Bure, puisque c'était à Bure, hein. Bure qui est une commune de l'est de la France où il y a un projet d'enfouissement des déchets. Donc là-bas, il y a une lutte aussi qui existe et qui prend notamment place dans la Maison de la Résistance à Bure, qui est un lieu assez incroyable. Et je vous invite à voir sur le net, il y a un documentaire qui s'appelle « À Bure pour l'éternité » qui en parle. Le nucléaire, c'est quand même un point central de la COP21 et du placement de la France dans cette lutte contre le réchauffement climatique et de la manière dont l'État français imagine la suite. Et donc, à Bure, cet été, il y a eu un grand rassemblement. Il y a différentes composantes des mouvements qui sont rassemblés là-bas et qui ont eu cette idée, qui est venue sur le devant, de mettre en place des convergences de différentes luttes et donc différentes marches qui partiraient un petit peu de différents endroits de France et qui se retrouveraient à Paris, donc ce serait le 27 novembre, pour essayer de faire... encore une fois, se rassembler et puis de faire un petit peu être force de proposition et d'avoir un petit peu de visibilité pour pouvoir aussi passer un message. Donc, c'est venu un peu, je crois, de toutes ces luttes qui se sont rassemblées à Bure.
Pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, il y avait un vrai déficit de communication. Il est important de ne pas rester tout seul, d'avoir cette impression d'impuissance, alors qu'il y a effectivement des réseaux de gens qui sont motivés pour faire bouger les choses. Comme disait le proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ne restons pas seuls. Donc pour avoir des détails concrets, je pense que tu ne les as pas forcément, Stéphane, on peut aller sur un site, je crois.
Oui, tout à fait. Il y a un site qui a été mis en place pour relayer un petit peu toutes ces marches. Donc, il y a une marche qui est partie d'Agen déjà depuis un petit bout de temps. Il y a une marche qui va partir de Notre-Dame-des-Landes. Il y a une marche qui va partir de Bure. Il y a une marche qui va partir de Dijon, du quartier des Lantières. Et donc, il y a une marche qui est partie il y a quelques jours de Fort-Calquier. On va y revenir, je pense. Et donc, ce site internet où vous pouvez retrouver toutes les infos, c'est http://marchesurlacope.noblog.org. Donc, voilà, il y a différentes infos. Il n'est pas forcément mis à jour hyper régulièrement, mais quand même, il y a quand même des infos, quelques petites photos. Voilà, on en parle. Et je pense que c'est... voilà, je vous invite tous à aller faire un tour dessus sur ce site parce qu'effectivement, ce n'est pas au journal de France 2 ou dans le Dauphiné qu'on va en parler. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site.
De loin en loin, de terroir en terroir... on trouve des solutions, c'est un petit peu ça dont tu nous parlais, Pierre. Chaque territoire trouve des bénévoles qui proposent des hébergements aux marcheurs, par exemple, c'est ça ?
Oui, mais quand on a été contacté, là, je pense, à l'association Les Locomotives La Paix, pour les marcheurs qui venaient dans le Diwa, on a eu la liste des étapes qu'ils comptaient faire. Je crois qu'ils vont, avant le camp Diwa, ils vont être à la charse, il faut regarder sur le site, hein, c'est bien indiqué là. Alors dimanche soir, ils seront hébergés exactement à Montlore, sur la commune de Montlore, c'est à 3 km de Lucan-Diwa. Si jamais il y a des Diwa qui veulent participer à la marche depuis la charse, il faut voir où c'est. Mais,
du côté de Montlahuc.
De Montlahuc, oui.
Un peu au-delà de Montlahuc.
Alors je ne sais pas à quelle heure ils partent, mais on a organisé au moins le soutien depuis Montlore. Alors il y a rendez-vous lundi matin à 9h, c'est devant l'épicerie qui fait les produits régionaux, la raviole du Diwa, parce qu'ils vont être hébergés dans un collectif à côté là. Venez nous rejoindre, personnellement je vais les accompagner au moins pour cette portion. Alors on part à 9h30, rendez-vous c'est à 9h devant ce magasin là. On arrivera à Die, où ils seront hébergés par un café citoyen, un café associatif, là, qui est en travaux, là, c'est la bonneterie. Je crois qu'il y a un débat d'organiser, mais là, je n'ai pas assez d'infos. Il y a un débat, il y a un truc avec Habiter, qui est organisé, mais là, il faut se renseigner. Par contre, lundi matin, Montlore, mardi matin, ça sera rendez-vous devant la gare de Die. Pour marcher, hein, pas pour prendre le train. Alors pareil, de 9h, le départ, ça sera 9h30, pour aller à Saillant et aller rejoindre Stéphane. Là.
Voilà, c'est ça, la route continue, et puis ils arriveront à Saillant donc mardi en fin d'après-midi, vers 18h. Et donc nous, sur Saillant, on invite un petit peu tous ceux qui ont envie de les rencontrer, parce que l'idée de ces marches, c'est bien sûr qu'il puisse y avoir des rencontres, des échanges, des débats autour de la COP21, mais pas que, avec tous ces gens qui ont pris leur bâton de pèlerin, qui tous les jours vont faire 30 km pour monter jusqu'à Paris. Enfin, ouais, c'est un sacré périple. Et donc nous, on les accueille, toutes les personnes qui ont envie de s'informer, de discuter, d'échanger. On donne rendez-vous à partir donc de 18h30, 19h au café L'Oignon. Pour un repas partagé, donc chacun amène un petit peu à manger et puis on va partager ça avec les marcheurs. Et puis ensuite, on propose une projection, débat, discussion autour de la place des médias dans notre société. Voilà, hein, puisque leur marche, c'est vers la COP21, mais avec des sujets transversaux. Et on pensait que ce thème-là pouvait être un thème aussi important dans ce monde, de s'interroger un petit peu sur... comment la concentration des médias se met en place, comment les médias libres et alternatifs essayent d'exister, quelle est leur place, comment on pourrait un petit peu développer ça. Il y a aussi un projet de télé local qui est en train de se monter dans la vallée, donc ce sera l'occasion aussi d'en parler. Voilà, donc le soir, à partir de 20h30, en fonction de la durée du repas, voilà, petite projection, discussion à L'Oignon. Donc n'hésitez pas à venir partager ce moment avec tous ces marcheurs venus de Fort-Calquier.
Alors Pierre et Stéphane, avant de nous quitter, je voudrais vous demander si vous seriez d'accord, puisque quelquefois les renseignements que vous avez donnés étaient un peu flous. Hein. Donc est-ce que vous accepteriez de donner vos numéros de téléphone ou en tout cas une coordonnée pour que des gens qui pourraient avoir besoin de renseignements complémentaires puissent se renseigner ? Ou pas ? Ou bien ?
Oui, alors pas de souci. Alors déjà, je voudrais dire qu'il y a un téléphone de la marche qui, hier et aujourd'hui, était un petit peu off. Alors, je sais pas s'ils ont peut-être pas réussi à trouver un chargeur. Enfin, bref, je vous donne déjà ce numéro-là. donc qui est le 06 08 75 46 80, 06 08 75 46 80. Puis ensuite allons-y, allez, je le fais,
non mais t'es pas obligé si t'embêtes, hein.
Non mais c'est vrai que c'est important, voilà, d'avoir l'info. Donc je vais laisser un numéro aussi, donc le 07 81 66 52 15, pour toutes les infos, voilà, autour de l'étape de Saillant.
Alors, pour le DIO exactement, là, vous pouvez joindre Marion au 06 71 58 54 16. Vous pouvez aussi me joindre personnellement, c'est le numéro 06 09 78 55 31. Et pour les gens qui veulent nous rejoindre et qui veulent être hébergés dimanche soir, non, qu'est-ce que je dis, lundi, lundi, c'est à Mont-Laur, hein. On arrive donc lundi soir à 10. Pour l'hébergement sur 10 à la bonneterie, vous pouvez joindre Stéphanie 06 61 24 13 13 pour l'hébergement à la bonneterie.
Petite question d'intendance, vous suivez les routes, y a-t-il un âne qui vous suit avec des victuailles et de la boisson, ou faut-il être autonome?
Qui nous suit, enfin, on n'est pas sur la marche, hein, qu'on soit bien clair. Nous, on est des relais locaux de cette marche. Je crois qu'il y a une voiture balai qui doit effectivement transporter un petit peu de, voilà, de quoi aussi boire un petit coup, ou poser les vêtements quand il pleut, etc. Donc, oui, je pense qu'ils sont.
Donc, ils suivent la route aussi.
Qui ça?
Bah, les marcheurs, ils sont sur la départementale.
Ouais.
D'accord.
Ouais, ouais, tous les marcheurs, ils sont sur la route, donc.
Ils suivent pas des chemins creux.
Ah bah non, plutôt l'idée c'est aussi de pas se retrouver tout seul dans la forêt en prenant les gères. Hein. L'idée c'est quand même d'aller au contact des villages, de passer dans les villages, de voilà, de se faire connaître, de discuter, d'amener du débat, etc. Donc voilà, on va pas les
se cacher.
Se cacher.
Et que ça puisse grossir en route, quoi.
D'accord. Non, mais ça peut aussi être potentiellement dans certains endroits. Peut-être éventuellement dangereux, je pense à des virages secs dans lesquels une troupe de gens pourrait ne pas être vue par une voiture arrivant trop vite.
Oui, mais ça c'était envisagé, il y a tout ce qu'il faut pour prévenir avant et il n'y a pas de souci là-dessus.
Je lui passerai en fil indienne, mais actuellement il n'y a vraiment pas assez de monde pour que ce soit gênant. Hein. Quand ça prendra plus d'ampleur, parce que là la marche démarre un peu, quoi. Quand tu auras plus d'ampleur, c'est certain. Enfin, je pense qu'il faudra contacter les collectivités locales ou la police nationale pour que ça soit plus balisé, que ça ne gêne pas la circulation, quoi.
Ouais, on n'en est pas encore là. Effectivement, il y a encore de la place. n'hésitez pas à accompagner toutes ces personnes et à vous engager aussi dans cette marche, mais il n'y a pas de souci. Je voulais dire que par rapport à la COP21, il y a différents rendez-vous et il y a aussi des bus qui se mettent en place. Donc là aussi, vous aurez les infos. Je redonne le site marche sur la COP.noblog.org. J'ai entendu parler qu'il y avait un bus qui se mettait en place de Cré. J'ai eu l'info hier, j'ai pas retrouvé la source. Mais apparemment, il y a des bus qui se mettent en place pour aller sur Paris, pas forcément à pied, mais d'une autre manière. Et je voudrais donner un petit peu des grands rendez-vous sur Paris. Savoir que donc la COP21 débute officiellement le 30 novembre pour se terminer le 14, et qu'il y a différents rendez-vous. J'en citerai deux. Le dimanche 29 novembre, avec un grand rassemblement, action, manifestation dans Paris. Et ensuite, il y a aussi le 12 décembre, qui est la clôture. Donc, c'est jusqu'au 12, hein, pas jusqu'au 14. Clôture, et avec également plein d'actions mises en place pour la clôture. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous rendre à Paris pour cette COP21. Il va y avoir un village où vous allez pouvoir y aller. Enfin, il va y avoir des conditions d'accueil qui vont aussi être chaleureuses, notamment avec le collectif Attaque, tout un tas d'associations qui vont se rassembler autour du Bourget, puisque c'est au Bourget que va le QG un petit peu de la COP21. Donc il va y avoir des lieux un petit peu de rassemblement des personnes en lutte et des résistants et résistantes de ce pays, mais pas que, puisqu'il y a des gens qui vont venir d'un peu partout. Donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour là-bas et qu'on se rencontre tous et qu'on agisse pour que cet autre monde soit possible.
Oui, mais là je pousserai par exemple pour qu'on mette bien en avant les solutions qui pourrait permettre ce saut qualitatif. Et une solution où on a bien bossé, nous, les locomotives La Paix, là, ou l'Union pacifiste, c'est le désarmement unilatéral. Je ne sais pas si vous voyez, on va sortir une sorte d'étude, mais qui est très succincte, on a peu de moyens, mais sur les conséquences que pourrait avoir un désarmement unilatéral en France, sur les économies que ça ferait, et surtout le fait de mettre en avant que les solutions militaires sont obsolètes, elles n'ont aucune c'est la barbarie, quoi. C'est pas adéquat qu'il y ait un grand pays qui se met en avant pour une diplomatie, pour dire qu'il n'y a plus besoin d'armée nationale dans chaque pays. Au contraire, les petits pays en Afrique ou autre, vous n'avez pas besoin d'armée. Il y aura l'ONU qui peut s'occuper de vous. Il y aura tel ou tel grand pays qui peut vous protéger s'il y a un problème. Ça peut décoincer plein de trucs. Et cette étude, ça va être publiée sur le site de l'Union pacifiste au prochain numéro, pour décembre, au début de la COP21, justement.
Alors, je ne vais pas te casser la baraque, Pierre, mais ça me paraît tellement audacieux que je ne sais pas si l'air du temps est prêt à accepter ces...
Il y a une prise de conscience qu'on est chaque nation avec une armée, mais c'est le délire. Il y a eu comme dépense en 2014 par le Stockholm Institute, Peace Research Institute, le CIPRI, de 1800 milliards de dollars dans le monde. Oui. Les citoyens ne peuvent pas accepter ça. Il y a plein de gens qui sont dans le besoin. C'est comme si on scie la branche sur laquelle on est. Oui. C'est pas contre les militaires, hein, c'est contre le militarisme. Les militaires sont les premières victimes, entre parenthèses.
J'entends bien, Pierre. Je dis juste que, bon, peut-être suis-je obtus, mais encore une fois, c'est pour ça que je parlais de petits pas tout à l'heure, versus radicalité. C'est que je ne sais pas si le monde est prêt, je ne sais pas qu'est-ce qui a dit ça, mais en tout cas, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est l'erreur qui meurt. On ne convainc pas grand monde de grand chose. C'est juste un moment, il y a un truc qui tombe parce que c'est plus ça tombe. Alors, lors de Boko Haram et de tout le terrorisme partout, c'est peut-être un prisme que nous infligent les médias, ça c'est possible, le terrorisme universel, etc. J'ai du mal à croire qu'on puisse laisser tomber, mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Ça sert à quoi d'avoir des armées partout
Prise de conscience. Non, dans certains niveaux, on peut basculer dans d'autres logiques. Et il y a des logiques plus harmonieuses qu'il faut, il faut rester. C'est l'utopie qui montre l'avenir aussi. Hein. On vit dans l'utopie aussi aujourd'hui, hein, par rapport à ce qui était le Moyen-Âge. Pas toujours mieux des fois, mais bon.
Et j'aime bien les proverbes. Il y en a un que j'aime bien, c'est vous connaissez tous si vis pacem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça, c'est l'adage que tous les militaires disent, bah oui, si on veut avoir la paix, bah, vaut mieux être prêt au cas où on nous attaque. Et bah, moi, je connais un autre proverbe, c'est « Si vis pacem, para pacum ». Si tu veux la paix, prépare la paix.
Exactement, c'est exactement.
C'est une belle conclusion.
Voilà, et bah, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne marche. Non, pas vous, mais en tout cas, aux marcheurs.
Si, on les accompagne un petit peu.
On va les accompagner un petit peu.
Au revoir.
Salut.
Merci.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.